Reportez-vous à Éphésiens, chapitre 5, s'il vous plaît. Éphésiens, le chapitre 5. L'apôtre Paul nous encourage, il encourageait à ce moment-là les gens d'Éphèse, mais il nous encourage, nous, aujourd'hui, surtout qui sont parvenus au temps de la fin, à être des chrétiens sages, engagés à 100% dans le chemin de la conversion, puis dans le chemin du développement du caractère de Dieu. 100% actif dans ses voies. Et ça comprend toute notre vie. Et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Notre vie dans tous ses aspects, même les plus petits. Éphésiens 5, on va lire à partir du verset 15. Paul dit, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » Je précise le mot ici, circonspection, ce n'est pas un mot qu'on utilise régulièrement. Circonspection, ça veut dire avec prudence, avec attention, avec soin. Alors, prenez donc garde de vous conduire avec soin, avec attention, selon les voies de Dieu qu'on connaît, pour les appliquer dans notre vie. On va le voir par le contexte, c'est ce que ça veut dire par la suite. Prenez donc garde de vous conduire avec soin, avec attention, non comme des insensés qui n'auraient pas de ligne de conduite à suivre, mais qui feraient n'importe quoi, n'importe comment. Non comme des insensés, mais comme des sages. Et on sait que la sagesse, ça commence avec la connaissance du vrai Dieu, puis avec la connaissance de ses lois, de ses voies. Mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et on sait que là où nous sommes rendus maintenant dans le temps, les jours où nous vivons sont de plus en plus mauvais parce que ce sont les jours qui précèdent le retour de Christ, de plus en plus proches. Et à ce moment-là, on sait par la prophétie que les choses devaient et sont en train de se gâter de plus en plus. Alors, il dit « racheter le temps ». Racheter le temps, ça veut dire utiliser le temps que vous avez de la meilleure façon à ce moment-là, selon Dieu, pour vous préparer. Utilisez, autrement dit, ce temps qui nous est donné, même dans des jours mauvais, pour nous approcher de Dieu et faire sa volonté. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Plus on étudie la Bible, plus on entend de messages, puis on réfléchit, puis on voit ce que Dieu veut qu'on fasse. Puis c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur. Et il le mentionne à de nombreux endroits dans la Bible. Comprendre quelle est sa volonté. Puis après, il donne une série d'exemples dans quoi on doit être considéré, agir comme sage, agir avec attention et racheter le temps. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, par exemple. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes. Verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu. Et quand on dit merci à Dieu, ça nous force à apprécier les choses qu'on a, qu'on vit, même dans des choses difficiles. Parce qu'on peut même arriver à dire à Dieu, dans des circonstances difficiles, merci que j'ai à vivre ça. Je ne comprends pas nécessairement pourquoi ça m'arrive, mais je sais que tu te sers de tout ce que tu permets qui m'arrive pour que je grandisse dans la stature de Christ. Alors, merci même de ce qui m'arrive et merci que tu vas m'en délivrer de la meilleure façon au meilleur moment. Et là, on est encouragé par ces paroles-là même parce qu'on s'en remet à ce moment-là totalement à lui, même dans des circonstances négatives ou difficiles. Alors, il donne ça comme exemple. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Vous soumettant les uns aux autres, donc, encouragez-vous, aidez-vous. Alors, puis vous continuez, après ça, il parle des maris qui doivent prendre soin de leurs femmes, des femmes par rapport aux maris. Ce qu'il donne là, c'est une série de points de notre vie de tous les jours pour montrer que l'ensemble de notre vie, ça lui appartient maintenant. Parce qu'il nous a attirés, on a signé le contrat de l'Alliance dans le sang du Christ au moment de notre baptême en disant « Je veux t'appartenir, fais de moi ce que tu veux. » Ça comprend toute ma vie entière. mes actions, mes pensées, mes émotions, mes rêves, tout est orienté et centré sur Dieu, après ça, sur son plan. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de valable autour si ce n'est pas ce qui s'en vient? Parce que tout ce qui est autour est en train de tomber et va tomber. Et qu'on ait grande richesse ou pas de richesse, qu'on ait beaucoup de santé ou pas beaucoup de santé, tout ça va passer. Tout ça va être changé. Ce qui va rester au bout, c'est si j'ai été fidèle dans ces petites choses comme dans les grandes, Dieu va me donner la vie éternelle pour que je sois heureux éternellement et que je rende les autres heureux et que je le glorifie éternellement. Dans les actions qu'on entreprendra avec lui, avec le Christ, pour travailler sur l'univers et ainsi de suite, des choses qu'il en réserve pour nous. Ça m'a frappé parce que j'avais préparé le sermon au début de la semaine, puis j'ai reçu le World Ahead, les nouvelles de Charlotte, et puis le commentaire de M. Winney, de Dr. Douglas Winney, c'était exactement sur le même thème sur lequel j'avais réfléchi puis que je préparais le sermon d'aujourd'hui. Ça m'a comme confirmé. Dieu fait ça souvent. Il nous montre, dit, c'est ça, là. C'est de ça qu'il faut qu'on parle. Et c'est ça qui va nous encourager. Dans son commentaire, Dr. Winney l'intitule « Racheter le temps ». Il dit « L'apôtre Paul supplie les frères et les encourage avec force de garder le but de la vie éternelle devant leurs yeux et d'utiliser toutes les occasions possibles dans leur vie pour devenir de plus en plus comme le Christ. » Donc, c'est ma vie entière qui est consacrée à Dieu à ce moment-là. Et il explique que la ville d'Éphèse, c'était une cité portuaire où il y avait énormément d'activités et c'était une ville qui était remplie de tentations et de divertissements de toutes sortes, si vous voulez. Et les gens de la ville d'Éphèse se laissaient facilement distraire ou détourner de la vérité par toute cette effervescence qu'il y avait autour et qui était attirante et intéressante. Mais à nous, c'est encore plus fort aujourd'hui. Parce que la société autour de nous autres, elle est agressante dans un sens à cause de toutes les tentations qu'elle offre, mais qu'elle vient nous porter littéralement dans notre maison, si on ne fait pas attention, à la télévision ou à la radio ou ainsi de suite. On a vraiment des choix à faire là, pour racheter le temps, pour ne pas embarquer dans n'importe quoi et se laisser influencer par n'importe quoi. Alors, M. Winney l'explique que la ville d'Éphèse, c'était une ville portuaire remplie de tentations comme ça qui amenait les gens à se détourner de Dieu. Et il dit, laissons-nous pas prendre par les soucis matériels ou par l'attrait du matérialisme. Et ces avertissements sont là et très importants pour nous aujourd'hui, qui avons à vivre dans cet âge dernier, mais à garder notre cœur et notre objectif sur le but de notre vie. Dieu nous l'a révélé, le but de l'existence humaine et le but de notre vie à nous autres personnellement, chacun. Et il dit, continuons à développer le caractère de Christ dans la connaissance, dans la sagesse, pour être capable de régner avec lui. Utilisons au mieux le temps que Dieu nous donne. Et il dit, un bon sabbat. Alors, quand j'ai lu ça, ça allait exactement avec le sens du message que je veux vous donner aujourd'hui. Luc 12. Luc, chapitre 12. Le Christ a dit exactement la même chose, simplement dans des termes différents. Luc 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains, ça veut dire ayez votre ceinture attachée. Et à l'époque, ça faisait partie une partie majeure du vêtement pour soutenir l'ensemble du vêtement. Alors, soyez autrement dit prêts en toutes circonstances. Soyez sur vos gardes, soyez en train de vous préparer vraiment. Que vos lampes soient allumées. Et on sait ce que c'est, les lampes, avec le Saint-Esprit. Donc, il faut le demander chaque jour. Il faut l'utiliser chaque jour pour mieux faire, pour vaincre. Et si on manque notre coup une journée, ne pas se décourager, mais aller devant le trône de grâce pour être pardonné et secouru, comme c'est écrit dans Hébreux. C'est une promesse extraordinaire parce qu'on n'est pas parfait d'un coup, mais on est en marche, on continue. Alors, il dit, soyez semblables à des hommes, que vos lampes soient allumées, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir lorsqu'il arrivera et qu'il frappera. Heureux ce serviteur ou ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera ainsi. OK, alors ça nous donne encore nos ordres de marche dans ce sens-là. Et regardez l'explication que le Christ donne à Pierre qui pose une question ensuite au verset 42, au verset 41. Pierre demande, est-ce que tu dis ça, Seigneur, pour tout le monde ou juste pour nous autres, les appelés ou les membres d'Église? Et vous allez voir, le Christ lui montre que c'est pour les appelés, dans un premier temps, que ça s'est mentionné. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent? Et c'est le thème de mon message, je vais y revenir. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. On voit la fin de l'histoire pour ceux qui vont être persévérants, qui vont être fidèles. Mais ici, j'attire votre attention, et c'est le thème de mon message, c'est quoi être un économe fidèle et prudent? C'est quoi être un économe fidèle et prudent? Ça va avec le fait d'être prêt spirituellement, d'avoir nos reins sains, d'avoir nos lampes allumées, d'être en train de toujours continuer à se préparer. Ça fait partie de ça. Et ceux et celles qui seront trouvés ainsi, à ce moment-là, il va les établir sur tous ces gens. Donc, le Christ dit, soyez des économes fidèles et prudents. Dans le langage actuel, si on parle d'économes, ce que ça veut dire pour la plupart des gens sur le champ, ça veut dire être modéré dans nos dépenses. Quelqu'un qui est économe, fait des économies, hein? C'est le langage courant. C'est de faire des économies, c'est d'épargner. Mais autrefois, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques dizaines d'années, il y avait une fonction précise qui était accordée ou attribuée à un personnage spécial dans les communautés religieuses, par exemple. Soit dans les hôpitaux, dans les collèges, dans les couvents, il y avait le frère ou la sœur économe. Eux autres étaient chargés d'administrer. Alors ça, il n'y a pas tellement longtemps que ce sens-là était donné. Maintenant, si je prends le terme moderne d'économe qu'on peut appliquer ici, un des meilleurs termes pour désigner ce que le Christ entendait par « soyez des économes fidèles et prudents », on pourrait dire « soyez des gestionnaires fidèles et prudents ». Gestionnaire, ça, on va saisir plus facilement parce que c'est un terme plus contemporain. Soyez des gestionnaires fidèles et prudents. Et le titre de mon message, c'est « Fidèle gestionnaire de Dieu ». Fidèle gestionnaire de Dieu. Maintenant, quand on entend ce mot-là, le mot « gestionnaire », on pense presque tout de suite, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à une grosse compagnie. General Motors ou Enron ou des grandes compagnies européennes ou Saab ou ce que vous voulez. Ou on pense à des entreprises d'envergure. On pense à de la gestion de portefeuille. Hein? Gestionnaire de portefeuille. Gestionnaire de fonds de placement. Bon, ça s'applique à ça, c'est vrai. On pourrait en nommer la liste et continuer longtemps. Mais selon la Bible, être des gestionnaires de Dieu, c'est pas simplement être des gestionnaires de grandes choses comme ça. C'est même pas souvent être gestionnaire de grandes choses comme ça. Selon la Bible, celui qui devient chrétien, que Dieu appelle, qui se convertit, devient un gestionnaire, un économe ou un gérant de tout ce que Dieu lui confie. Puis c'est bon qu'on s'arrête à penser à ça. Quand on est appelé par Dieu, qu'on devient ses enfants engendrés, on devient ses gestionnaires, mais de tout ce qu'il nous donne dans nos petites vies à chacun. Dieu veut voir qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il nous a donné et avec ce qu'il nous donne, quelles que soient les circonstances où l'on se trouve. Qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit étudiant, qu'on soit travaillant, qu'on soit chômeur, qu'on soit en pleine santé, qu'on soit malade, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié. Imaginez toutes les situations possibles. Chacun a sa situation précise. Mais Dieu se sert des éléments de chacune des situations pour nous préparer aux grandes choses qui viennent. Et on devient des gestionnaires de tout ce que Dieu nous confie. Que ce soit, comme je dis, de grandes choses, ou que ce soit, puis là, je pèse bien mes mots, ou que ce soit des choses qui nous semblent petites. Des fois, on dit, ah, c'est des choses sans importance, comme s'il n'y avait pas de rapport entre les toutes petites choses de ma vie et mon travail dans le monde à venir ou le fait de plaire à Dieu. Comme s'il y avait juste un, j'aille à un certain niveau d'importance d'activité ou de grandeur d'activité pour que ça compte. C'est pas ça du tout. Vous allez voir. 1 Pierre 4, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 10. Pierre dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. » Grâce ici, c'est les dons de Dieu qui nous donnent, les talents qu'il nous donne ou les habiletés. Et le mot « dispensateur » ici, vous pourriez mettre « économe » ou vous pourriez mettre « gestionnaire », un gérant. Ou comme des bons gérants, des talents que Dieu vous a donnés, des choses que Dieu vous a données, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voyez-vous? Alors, on a à travailler avec ce que Dieu nous donne. Et ici, il y a peut-être une dimension qui est bon que j'explique. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Hein? Et il y en a qui ont des talents extraordinaires, qui sont impressionnants. À tel point que des fois, on dit, je me demande comment qu'elle fait cette dame-là pour faire ça, moi, je ne serais pas capable. Ou comment cet homme-là fait pour faire telle chose, moi, je ne serais pas capable de faire les mêmes choses. Et ça peut être vrai. On voit des gens, par exemple, qui sont capables, avec un doigté extraordinaire, d'avoir soin de personnes lourdement handicapées, par exemple, ou de personnes gravement malades, puis ils ont une patience, puis ils ont un talent à ça, que certains d'entre nous, on aurait de la misère à avoir. Par contre, dans d'autres domaines, vous avez peut-être une grande longueur d'avance sur la même personne qui est très habile avec les personnes fortement handicapées, alors que elle, cette personne-là ne serait pas capable de faire les choses que vous faites dans d'autres domaines. Ce n'est pas une question de compétition, la Bible l'explique. Mais on a des dons plus forts sur un aspect que sur l'autre, selon que Dieu a voulu. C'est lui qui a décidé. Mais à nous de les utiliser, les dons qu'on a et pour lesquels on a de la facilité, les utiliser le mieux possible, puis tout en développant tranquillement les autres. Et ça, ça forme l'équipe de Dieu. Bon. Certains, par exemple, ont une facilité à exercer l'hospitalité. D'autres se sentent mal à l'aise de recevoir. J'ai déjà vu ça dans l'Église. D'autres ne sont pas à l'aise de recevoir. C'est pas une faute. On l'apprend. Mais la personne qui n'est pas à l'aise à recevoir, elle va peut-être être beaucoup plus à l'aise d'être compatissante, par exemple, aux besoins des autres, aux souffrances des autres, pour être capable de l'encourager. Elle a ce talent-là de plus. Elle a de la misère avec l'hospitalité, mais pour être capable d'encourager de l'autre côté, elle est capable. Voyez-vous? Alors, tout ça joue dans l'Église de Dieu. Certains ont plus de facilité à écouter d'autres, par exemple, à écouter leurs problèmes, puis à vraiment prêter oreille, puis à être dans ce sens-là des encouragements. D'autres, on doit faire un effort pour y arriver. Bon, ça, c'est la réalité des choses. Et ce n'est pas une question de se sentir coupable si on n'est pas capable, par exemple, d'avoir soin autant d'un grand malade qu'une autre va être capable de le faire. Mais d'apprécier les talents que Dieu nous a donnés, les mettre au service des autres, puis tranquillement développer l'autre. Puis être fier, être content de ce que l'autre personne peut le faire, ce que nous, on ne peut pas faire aussi facilement. Être de plus en plus de fidèles gestionnaires de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Gestionnaire, ça veut dire gérer. Ça veut dire administrer. Ça veut dire organiser. Ça veut dire, c'est celle-là que moi j'ai retenu qui me semblait le mieux décrire ce que je veux expliquer, utiliser au mieux. Utiliser au mieux ce que Dieu nous donne ou les circonstances que Dieu nous donne de vivre. Les utiliser au mieux avec son aide. Dans la perspective de plaire à Dieu puis de nous préparer au royaume, n'oubliez pas là. C'est pas juste pour dire je vais être capable de passer à travers pour que je l'oublie ensuite. Non. Je me sers de ça pour plaire à Dieu puis me préparer au royaume qui vient. Parce que des fois, Dieu me prépare à des responsabilités qu'il va me donner par des chemins dont je ne vois pas le rapport automatiquement avec ce qui va m'être accordé dans le monde à venir comme responsabilité. Mais lui, il sait. Lui, il sait où tout ça va mener. Il voit la fin de l'histoire, puis il sait pourquoi il le fait. Alors, c'est là que moi, je dois apprendre à lui faire confiance entièrement, puis à dire, Dieu, donne-moi d'apprendre là-dedans ce que j'ai à apprendre pour te plaire et pour me préparer à réaliser le but de ma vie. Allez à Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, on va commencer à lire avec le verset 12. Ah, vous connaissez bien la parabole ici, c'est la parabole des mines. Le Christ dit ceci, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. » Et là, il parle de lui-même, qui devait aller au trône de son père avant de revenir sur la terre, ce qu'il doit faire bientôt. Alors, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines, une mine à chacun. Et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Donc, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, « Avec ce que je vous donne, là, faites quelque chose. Faites quelque chose. Améliorez-vous. Améliorez les choses. » Pour vous donner une idée, une mine à l'époque, ça équivalait à peu près à 3 mois de salaire. Mettez ça en valeur d'aujourd'hui, ça vous donne un peu une idée du montant que le Christ leur a confié. À peu près la valeur de 3 mois de salaire. Mais prenons ça comme représentant tout ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné plein de choses. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la santé. Dieu nous a donné les parents qu'il nous a donnés. Les enfants qu'il nous a donnés, si on est des parents. Dieu nous a donné le travail qu'on a ou de chercher un travail actuellement. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des centres d'intérêt qu'on doit développer, des goûts aussi pour certaines choses. Et souvent, avec nos goûts, viennent l'attrait puis les capacités aussi de réaliser des choses. Dieu nous a donné le temps. Je vais revenir là-dessus, c'est important, le temps. Racheter le temps, ça nous est donné par Dieu. Et c'est fascinant, je regardais ça l'autre jour encore. Écoutez, Dieu n'avait pas besoin du temps, il est en dehors du temps. Il a créé le temps pour les êtres humains, pour qu'on ait le temps de développer son caractère. Il nous l'a donné comme un cadeau. Et le temps est un des éléments majeurs qu'on a pour utiliser, pour nous préparer pour le retour de Christ. Dieu nous permet ou nous donne des épreuves. Des fois, on ne veut pas y penser comme ça parce qu'on serait porté en tant qu'humain à dire, bien, toutes les bonnes choses viennent de Dieu, puis les choses difficiles, il ne faudrait pas que ça vienne de lui. Non, il permet qu'il y ait des choses difficiles qui nous arrêtent, qui nous arrivent, parce que ça nous aide. S'il n'y a pas de, comment je dirais, de force contraire, on ne développe pas la musculature, hein? Ceux qui font de la gymnastique ou qui font des poids et haltères, vous devez lutter contre une adversité pour développer une musculature. C'est la même chose au point de vue spirituel. Dieu nous donne parfois des pertes, parfois des gains. Dieu nous permet toutes sortes d'expériences de vie. Mais j'insiste, je reviens là-dessus, parce que tout ce que Dieu nous donne, Dieu s'en sert. Et c'est important et encourageant qu'on le voit comme ça, parce que même dans les plus petites choses de ma vie, je peux réaliser que je peux plaire à Dieu. Dans les choses qui semblent les moins importantes, que personne ne voit même. Mais pour Dieu, qui voit toutes choses, puis qui a les yeux centrés sur ses tout-petits actuellement, pour lui, tout ça a de l'importance. Quand l'homme de haute naissance est revenu, on voit au verset 15 ici, de Luc 19, on sait ce qui est arrivé. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, ou auxquels, mettons-les pour nous, auxquels il a donné tout ce que nous avons, chacun d'entre nous, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Donc, il avait fait quelque chose avec. Vous savez, le deuxième, sa mine avait rapporté 5 mines. Bon, un peu moins, mais le Christ dit, « Bon, bon et fidèle serviteur, voici ta récompense. » Et il dit bien ici, au verset 17, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en quoi? » dans de grandes choses que tout le monde voyait? Non, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, reçois le gouvernement de 10 villes dans le royaume éternel de Dieu. Là, on parle de quelque chose d'énorme. Mais il dit, parce que tu as été fidèle dans des petites choses. Petites choses. Puis c'est là-dessus que je veux attirer votre attention, parce que ça devient un fort encouragement pour nous quand on réalise que ce qu'on prend la peine de faire à la gloire de Dieu, dans les moindres choses de notre vie, ça lui plaît, ça nous prépare. C'est pas en vain. On le fait à ce moment-là pour un motif supérieur, même si c'est une chose toute petite. Il y a deux leçons qu'on pourrait tirer ici rapidement. C'est qu'il faut être soumis au Christ et à ses serviteurs, au chef de l'Église. Il faut être, et la deuxième leçon, c'est d'être fidèle, de s'appliquer à vivre selon ses voies dans tout, je reviens encore là-dessus, les aspects de notre vie, même dans les toutes petites choses, même celles, comme je mentionnais, qui peuvent sembler sans importance. Ce qui compte pour Dieu, ça c'est important qu'on le réalise, ce qui compte pour Dieu, c'est pas la grandeur d'une chose ou son apparente importance ou son importance aux yeux des êtres humains. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la grandeur des choses ou leur apparente importance. C'est notre attitude face à ces choses-là. Ce que nous faisons avec. Est-ce que nous l'utilisons au mieux, même la plus petite chose? Écoutez, je me rappelle le cas d'une dame âgée, pauvre toute sa vie, vivre dans un tout petit appartement, une pièce et demie peut-être, quelque chose du genre, et la dame de dire, comment moi je pourrais administrer des villes? J'ai jamais rien administré de gros, j'ai toujours été pauvre, j'ai presque rien, j'ai de la misère à arriver, à faire les fins de mois, mais cette petite madame-là était comme la petite veuve qui donnait ses deux pièces aussi, elle supportait l'Église dans la mesure du possible, avec des petites offrandes et ainsi de suite, elle priait pour l'œuvre, elle faisait plein de choses comme ça, mais elle se préparait, mais elle dit, moi je suis pas capable de gérer des villes, c'est pas la grandeur de la chose qui compte pour Dieu, c'est ce qu'on fait avec, comment on l'utilise. La toute petite personne qui n'a pas de revenus, qui est peut-être malade, très avancé en âge ou jeune, mais qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui fait au mieux avec ce qu'elle a, c'est cette personne-là que Dieu considère comme étant en train de réussir sa préparation pour administrer des villes dans le royaume. La personne a peut-être 500 $ ou 500 euros à administrer par mois ou 800 euros, quel que soit le montant. Mais si elle est capable d'administrer à la gloire de Dieu ces 500 euros par mois, ces 500 $ par mois, ça ne sera pas un problème pour elle d'administrer 500 milliards d'euros ou 500 millions d'euros par mois quand elle aura la charge d'une ville ou de 5 villes et que les impôts seront envoyés pour l'administration générale. C'est le principe de comment administrer. Elle l'a appris. Elle a appris à utiliser au mieux chaque dollar ou chaque euro, à ne pas gaspiller et à le faire servir au mieux et même soutenir l'œuvre de Dieu dans la mesure de ses moyens et ainsi de suite. Voyez-vous, ce n'est pas la question du montant. Si je suis capable d'être honnête en ne volant pas un dollar ou un euro que je peux prendre, je vais être honnête s'il y a 100 euros en jeu ou 1000 euros ou 1000 dollars en jeu. Ce n'est pas le montant, c'est l'attitude avec ce que j'ai, avec ce qui m'est donné. Le principe de bien gérer, c'est le même, autrement dit. Le montant à gérer n'a aucune importance. Le montant à gérer n'a aucune importance. Et j'ai vu, moi, dans ma vie, des dames qui n'avaient pas appris l'administration. Et à un moment donné, tranquillement, avec leur mari, ont appris des choses. Et le mari a décédé et la petite madame a continué. Elle n'avait jamais été à l'école beaucoup, jamais appris de grands cours de comptabilité ou quoi que ce soit, mais on gérait de façon superbe le petit budget de la maison ou de la petite entreprise qu'il y avait. Mais ils l'ont appris comme ça, à regarder, à poser des questions, à se faire des petites notes à eux autres que les autres ne comprenaient peut-être pas. Mais cette personne-là a appris à gérer une fortune sans le savoir, parce que c'est le même principe. Quand elle va arriver dans des grands montants, c'est exactement la même chose. Comme d'autres disent, bien, j'ai jamais dirigé de gens. Ah oui, vous en avez dirigé. Ah oui, vous en avez dirigé. Parce que rappelez-vous la définition de ce que c'est qu'un dirigeant. C'est un serviteur. M. Meredith l'a dit souvent. C'est quelqu'un qui est capable de voir les besoins des autres, puis d'être capable de trouver les bonnes paroles, de parler quand c'est le temps, de ne pas parler quand c'est le temps, d'être capable de donner de l'encouragement, de la compassion. C'est ça un dirigeant, parce que dans le monde à venir, nous allons être des dirigeants serviteurs et non pas des maîtres d'esclaves ou des dirigeants féroces qui ne cherchent pas à comprendre ou à aider vraiment les autres, mais qui cherchent à se nourrir eux-mêmes et à tirer profit de tous ceux qu'ils disent servir. Alors, voyez-vous que même la petite personne qui n'a jamais été conseiller municipal ou qui n'a jamais été en charge d'une entreprise ou qui n'a jamais été en charge d'une grande administration, elle a appris à gérer des gens parce qu'elle a eu des gens autour d'elle et dans son comportement envers ces gens-là, elle a appris, selon Dieu, les principes de gérer des gens. Et on le voit dans l'Église et c'est vraiment formidable. C'est la même chose pour... Des fois... Une petite maman à la maison avec ses enfants va dire, « Bien, moi, j'ai pas gros l'occasion d'apprendre à me préparer pour le royaume. » Ah non? Ah non, vous avez des petits sujets tout proches, là. Et en leur montrant d'être disciplinés, en leur montrant la parole de Dieu, en les éduquant, en faisant tout ça, c'est comme la gestion d'un royaume en plus petit. C'est exactement la même chose. C'est pas la grandeur. C'est le principe. Si on est capable de l'appliquer dans de petites choses, on peut l'appliquer dans de grandes choses. Puis il y a une grande joie, puis il y a une grande satisfaction quand on sait que tout ce qu'on fait peut plaire à Dieu et peut nous préparer. Je vous donne rapidement quelques domaines qu'on peut apprendre à gérer peut-être plus efficacement encore. On a tous à apprendre des choses, moi le premier. Puis en préparant le sermon, ça m'aide à moi aussi m'examiner. Et c'est bon de temps à autre de faire le point puis de dire, est-ce que je suis un bon gestionnaire de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment développé suffisamment? En quoi je pourrais m'améliorer? Par exemple, est-ce que je suis un bon gestionnaire de mon temps? Certaines personnes ont de la difficulté avec ça. Ça ne vient pas tout d'un coup. C'est une discipline aussi. Est-ce que la répartition de mon temps est bien organisée? Si je n'organise pas la répartition de mon temps, c'est n'importe quoi à l'extérieur qui va m'organiser. Faut que je décide qu'est-ce que je fais de mon temps. C'est des choix. Je me rappelle, j'avais rencontré le maire Drapeau, à un moment donné, on avait différentes conversations sur des projets. Puis le maire Jean Drapeau de Montréal était très, très occupé. C'est lui qui était à l'époque de Terre des Hommes aussi. Et lui, il disait, « Celui qui ne perd pas son temps en a tout le temps. » Ça m'avait frappé. La personne qui ne perd pas son temps en a tout le temps. Donc, elle a toujours du temps pour les choses essentielles, mais elle ne tire pas partout, par exemple. Elle apprend à planifier ses choses. C'est ça, la différence. Mais gérer son temps, c'est de penser à qu'est-ce que je vais faire avec mes journées, mes semaines, comment je vais organiser mon programme chaque jour de façon équilibrée, comme Dieu veut que je le fasse. C'est surtout ça dans notre cas, avec les bonnes priorités. On sait que nous autres, c'est d'abord chercher Dieu, le royaume et sa justice. Donc, mes journées commencent comment? Ils ne peuvent pas commencer autrement qu'en priant Dieu, qu'en me remettant dans ses mains, qu'en lui demandant son aide. Puis je peux même lui demander, « Dieu, aide-moi aujourd'hui à ce que ma journée te plaise, à ce que je me serve, puis que je réalise là, que tout ce que je vais vivre, même les plus petites choses, même d'aller au marché d'alimentation pour chercher quelque chose, c'est une occasion pour moi d'être une lumière dans ma façon de traiter les gens, par exemple. Ça a l'air de rien. Mais Dieu regarde ça. Comment je traite les gens? Quelle sorte de dirigeant je vais être? Alors, Dieu en premier. La deuxième priorité, bon, Dieu en premier, nos prières chaque jour, études chaque jour aussi. Pas juste lire, mais étudier la Bible. Et plus on le fait, plus on se fait une discipline de le faire, vous allez voir, et ceux qui le font, vous le savez déjà, plus on aime le faire. Et plus on est encouragé à le faire parce qu'on apprend des choses, on se fortifie. Écoutez, la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, plus j'étudie la parole de Dieu, plus je suis fortifié, plus quand il arrive une circonstance dans ma vie, plus je suis capable de référer à ce que j'ai lu, et ça me rappelle ce que Dieu a fait pour tel autre ou tel autre, et ça me donne confiance, parce que c'est le même Dieu, aujourd'hui, hier, éternellement. Premièrement, Dieu. Deuxièmement, la famille. Si je suis marié, c'est mon conjoint, mes enfants. Est-ce que j'ai du temps chaque jour pour eux autres? Est-ce que j'ai du temps chaque jour pour eux autres? Est-ce que je m'occupe des besoins de ma conjointe? Est-ce que je prends le temps, parfois, d'aller au magasin avec elle? J'aime pas aller au magasin. Mettons, je suis un homme dans la plus pure tradition mâle et que j'aime pas aller au magasin. Bon. Mais je suis marié avec une épouse qui aime aller au magasin à l'occasion pour chercher des choses, puis elle aimerait ça que j'aille avec elle. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Dire, bien, vas-y, voici mon temps, vas-y, acheter une robe. Ça fait longtemps que tu en veux une, choisis-en une. Oui, mais elle est mariée avec moi. Elle aimerait ça que j'aille avec elle, qu'on la regarde ensemble, parce que la robe, elle veut qu'elle me plaise aussi. Ah, pardon. Oh, on est un couple. Un couple, c'est deux, habituellement, deux. Ça, c'est la base. OK? Alors, voyez-vous, à ce moment-là, le mari doit faire attention aux besoins de sa femme dans ce sens-là et prendre le temps à l'occasion. Il ne peut pas y aller tous les jours. Il ne peut pas dépenser tous les jours, non, c'est sûr. Mais il faut qu'il aille à l'occasion avec elle pour lui faire plaisir. Et elle va faire la même chose de son côté pour d'autres sortes d'activités qui l'intéressent peut-être moins, elle, au point de départ, que son mari. Mais c'est ça, un couple, encore. C'est de s'encourager l'un l'autre. C'est ça, le vrai partage. Et ça, c'est utiliser le temps, c'est de racheter le temps comme un chrétien ou comme une chrétienne, de penser aux autres. Même chose pour les enfants. En tant que père, on doit se garder du temps chaque semaine, le plus souvent possible pour les enfants, pour jouer avec eux autres, pour passer du temps avec eux autres, pour être à quatre pattes, à faire des choses quand ils sont petits, puis quand ils sont un peu plus grands, à faire d'autres choses. Parce que si la ligne est ouverte comme ça depuis qu'ils sont petits, quand ils vont devenir adolescents, ils vont continuer de garder le contact. Et vous allez pouvoir les aider à passer à travers l'adolescence et à bien se préparer en tant qu'adulte. Et c'est quoi notre rôle? Quand la Bible dit que tu ailles en voyage, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, tu parleras de Dieu, tu parleras de ses lois à tes enfants, ça ne se fait pas par correspondance. Ça se fait avec eux, tout simplement. Alors, choisir du temps et garder du temps précieux. Puis vous allez voir, si vous le faites, ceux qui le font, là, vous savez, les enfants attendent après ça parce qu'ils ont hâte de pouvoir jouer avec papa. Ils ont hâte de pouvoir faire des choses spéciales avec papa et maman. Puis c'est normal parce que ça nous rapproche. La troisième chose dans l'ordre de mon temps ou des priorités, c'est mon travail. De bien faire mon travail. La Bible en parle aussi. Et si je n'ai pas de travail, mon travail, c'est d'en chercher. Et une fois que j'ai fait ce que je pouvais faire dans la semaine, je peux dire à Dieu, merci de m'avoir permis de faire ça. J'attends de voir ce que tu vas me montrer comme résultat. J'ai fait ma part. Je sais que tu veux que je travaille. Ce n'est pas encore le temps, apparemment, mais aide-moi à tenir le coup. Et merci de m'avoir permis de faire ça pour te plaire, parce que tu nous dis qu'on doit être occupé pendant 6 jours et le 7e jour, on se repose. Et si on est des employés, ne pas être contredisant envers les patrons. Si les patrons nous demandent des choses qui ne sont pas contraires aux lois de Dieu, les faire, tout simplement. Et non, pas toujours avoir une meilleure idée, là. Vous savez que le patron, parce qu'à un moment donné, le patron vient fatigué de ça aussi. Il demande que vous fassiez les choses de telle façon. Je me rappelle du cas d'un employé où le patron avait acheté une belle plante d'intérieur spéciale, puis il voulait que ça soit arrosé tous les jours. Mais la personne lui a dit, bien, si je l'arrose à tous les jours, c'est une plante qui ne demande presque pas d'eau, elle va mourir. Je veux qu'elle soit arrosée chaque jour. OK, il veut qu'elle est morte. Mais, mais écoutez, le principe est le même. C'est que la personne, elle, qui a arrosé comme le patron demandait, la personne a dit ce qui aurait pu arriver. Le patron a dit, je veux que ça soit comme ça. Là, on arrête d'en parler, puis on arrose. Aussi simple que ça, ne pas être contredisant. Être coopératif dans les projets, même si nous autres, on verrait un projet que le patron lance qui serait peut-être meilleur d'une telle façon, on peut suggérer simplement une meilleure façon, mais après, c'est fini. Après, j'embarque et je collabore 100%. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Et si je suis un patron, à ce moment-là, est-ce que je suis capable d'écouter les suggestions de mes employés? Oh! Oh! Et non pas jouer à Monsieur le patron. mais être capable d'écouter mes employés. Si vous remarquez, même dans le monde, les entreprises qui fonctionnent très bien, c'est les entreprises où il y a une belle complicité comme ça, patron-employé, avec un même but dans l'entreprise. Ce n'est pas des gens parfaits, mais c'est des petits points de repère qui aident beaucoup, beaucoup. Dans l'utilisation de notre temps, il y a le repos aussi. Il y a des gens qui viennent à l'Église et qui doivent apprendre à se reposer parce que c'est des bourreaux de travail. Des gens qui ont manqué d'équilibre dans le passé, dans l'organisation de leur temps. Parce qu'il y avait juste le travail et pas d'autre chose, en pensant que là, ils accomplissaient le but de l'existence humaine. Mais à un moment donné, on frappe un mur tôt ou tard et tout ça s'écroule. Alors, il faut apprendre à se reposer, à donner du temps aux autres, si on a une famille, comme j'en parlais tantôt, apprendre à se reposer aussi, à avoir des loisirs, à faire un peu d'exercice, à avoir des divertissements. Moi, des fois, je vous dis ça en passant, parlez-en pas à personne, mais j'ai mon jeu de cartes dans mon tiroir de bureau, puis quand j'ai besoin de prendre un petit répit, je me fais quelques parties de patience. Et puis, ça fait du bien, je pense à d'autres choses. Après ça, je me lève, je vais me faire un café, je reviens, je suis prêt à continuer. J'ai fait une pause. Et je suis obligé de me forcer pour faire ça parce que je ne faisais pas ça avant. Mais là, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à aller marcher un peu chaque jour, à essayer de me faire une discipline d'une demi-heure de marche par jour. Et ça fait une différence, ça aide. Je suis en train d'apprendre. On est tous en train d'apprendre. On ne l'a pas en partant. Alors, on cherche l'équilibre. Alors, être des gestionnaires, des bons gestionnaires de Dieu dans le temps que Dieu nous donne. Des bons gestionnaires de notre corps aussi. Vous pourrez aller voir dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, Dieu dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, on n'a pas appris, je pense que c'est un peu partout pareil, en grandissant, à aller vers une saine alimentation. On était content d'avoir de quoi manger, premièrement, et on ne se préoccupait pas de ça. Ce n'était pas des choses tellement véhiculées comme connaissances non plus. Alors, nous qui savons mieux maintenant, on doit faire attention à notre corps et prendre une saine alimentation, prendre de l'exercice suffisant, prendre suffisamment de sommeil selon nos besoins. Et encore là, c'est intéressant et encourageant de réaliser que si on fait ces choses-là pour honorer notre Dieu qui nous commande de faire attention, de prendre soin du temple du Saint-Esprit, on le fait pour qui? On le fait pour un motif supérieur, on le fait pour la gloire de notre grand Dieu qui nous a demandé de le faire, pour garder notre machine en bon état le plus longtemps possible, pour le servir le mieux possible et le plus longtemps possible. Est-ce que je suis un bon gestionnaire des biens physiques que Dieu me donne? C'est un autre point. Proverbe 27, verset 23. Proverbe, chapitre 27. Proverbe 27 et le verset 23. « Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. » Ça s'applique si on a des animaux, quelqu'un qui est sur une ferme, qui vit avec des animaux, tout ça, ou qui garde des animaux, c'est vrai. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à ton troupeau. Ça veut dire de bien traiter nos animaux. Dans le monde à venir, là, il n'y aura pas de ferme d'une immensité incroyable où les animaux sont traités comme des machines, ils sont enfermés sans pouvoir aller dehors pour être des producteurs jusqu'à temps qu'ils soient épuisés et que là, ensuite, on les jette, on les maltraite et ainsi de suite. Ça n'existera pas dans le monde à venir. Moi, je me rappelle, je connais des gens, je peux dire presque d'une autre époque parce que ça se voit presque plus maintenant, où les personnes sur les fermes connaissaient tous les animaux par leur nom, pour ainsi dire. Il y avait leur troupeau, ils connaissaient les animaux par leur nom. Et surveillaient quand une était malade, quand une vache était malade ou une brebis était malade, ils en prenaient un soin particulier, ils l'emmenaient à part, ils la traitaient de façon spéciale. Si une naissance d'un petit était à risque et que le petit était mal en point, ils l'élevaient parfois dans un hangar à part avec une bouteille et puis ainsi de suite. Ils prenaient soin de leur troupeau, ils connaissaient chacune de leurs brebis. Ça s'applique à ceux qui ont des animaux. Ne pas être cruel envers les animaux, n'en prendre vraiment soin. Nos animaux de compagnie, la même chose. Mais ça s'applique aussi à toutes nos possessions. C'est vrai pour l'entretien et le bon ordre de nos biens matériels. Est-ce que j'entretiens bien la voiture que Dieu m'a donnée? Est-ce que j'en prends bien soin? Si j'en prends bien soin, je vais être le premier bénéficiaire. Et si j'en prends bien soin, je suis un exemple de la façon de faire de Dieu Mon petit appartement ou ma chambre, est-ce que je la garde en ordre, propre, belle? Voyez-vous, Dieu est un Dieu d'ordre. Je suis en train de devenir de plus en plus comme lui. Alors, c'est bon de mettre de l'ordre dans nos choses. Là, j'ai commencé, comme je vous avais dit, un certain ménage dans mes dossiers, parce que ça faisait des années que j'accumulais des choses, et je veux passer à travers de ça. C'est bon de savoir qu'est-ce qu'on a, puis où c'est, pour être capable de le trouver. Et là, je vais discarter ou je vais jeter un paquet de documents que j'ai gardés depuis 25-30 ans et que j'utiliserai plus. On m'a dit, j'ai vu une recherche dernièrement où on nous dit que 80% des documents qu'on classe de côté, on ne les réutilise jamais. Alors, au point de départ, là, je vais commencer à faire une sélection plus serrée de ce qui peut vraiment m'être utile. Si ça m'est vraiment utile à court terme, là, je vais le garder, je vais le classer de façon à être capable de le retrouver. Pas dire à un moment donné, « Ah, j'ai quelque chose là-dessus. » Mais où? Ah, je vois que c'est pas, je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Où c'est maintenant? Alors, ça fait partie du caractère de Dieu à développer. On a tous des choses à apprendre de ce côté-là. Moi, le premier, je suis en train de le faire. Et plus on le fait, plus ça devient intéressant, parce que là, on voit ce qui peut être utile, on le garde à la bonne place, on sait qu'on peut le retrouver au bon moment. On met nos documents légaux avec les documents légaux dans une place particulière. On classe nos photographies de sorte que si on veut les montrer à quelqu'un, ils sont accessibles et on peut les retracer par année et ainsi de suite. Puis on a du plaisir à le faire. Là, on a du plaisir vraiment à organiser nos choses. C'est impossible de tout garder. Il faut faire un choix. Et si on a un ménage à faire comme moi, j'ai commencé un morceau à la fois, un dossier à la fois. Si c'est des boîtes, là, quand je vais arriver à mes boîtes, ça va être une boîte à la fois. Si on s'en met trop sur les épaules, on se décourage. Vous regardez les fourmis, ils déplacent un grain de sable ou deux à la fois. Mais c'est pas long qu'ils font une butte, parce qu'ils en déménagent régulièrement. C'est comme ça. Et la Bible mentionne et dit, regarde ce que la fourmi fait. On peut le voir de cette façon-là, mais pour pas se décourager, on peut y aller une boîte à la fois. Puis bon, cette semaine, cette boîte-là est faite, formidable. Maintenant, la semaine prochaine, ce sera d'autres choses. Est-ce que je suis un bon gestionnaire avec mes finances? Est-ce que je suis fidèle dans mes dîmes? C'est une joie, ça aussi. Lorsqu'on envoie à Dieu sa dîme, puis lorsqu'on met de côté la deuxième dîme pour ceux qui ont un salaire, pour ceux qui ont des revenus d'intérêt, ceux qui sont sur des pensions, c'est différent. Mais, bon, est-ce que je suis fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes? Et ce qui va avec ça, est-ce que je vis selon mes moyens? On est dans une société qui ne vit pas selon ses moyens. Même les gouvernements qui étaient endettés de façon incroyable l'an passé pour soi-disant sortir de la crise économique ont emprunté comme c'est pas possible. Ils se sont surendettés en pensant que ça allait régler le problème, alors que l'échéance s'en vient dans quelques mois. Ils pourront pas réendetter encore pour faire d'autres projets de route ou quoi que ce soit pour soi-disant stimuler l'économie. Il y a un bout à ça. Mais individuellement, il y a un bout aussi au crédit. Attention aux cartes de crédit. Il y a des gens qui viennent à l'Église qui n'ont pas appris à utiliser ça. Ils l'apprennent dans l'Église avec les informations qu'on leur donne. Moi, je vous dirais ceci. N'ayez pas plus qu'une carte de crédit. Et si vous avez une carte de crédit, gardez-la seulement si vous êtes capable, à la fin de chaque mois, de payer le solde qui apparaît dessus. Comme ça, vous ne paierez jamais une scène d'intérêt. Votre carte de crédit va vous servir pour acheter et pour vos besoins réguliers, mais vous avez toujours de l'argent pour couvrir à la fin du mois. Parce que j'ai vu des cas où les gens étaient en train de perdre leur maison parce qu'ils avaient monté 3-4 cartes de crédit au maximum et qu'ils n'étaient plus capables de les payer. Mais là, on parle de 18, 20, 25, 28 % d'intérêt que les banques chargent. C'est écrit en caractère qu'une fourmi ne pourrait pas lire avec une loupe. Mais c'est comme ça. Mais là, c'est les intérêts sur les intérêts qui s'accumulent. Et si vous avez un certain montant de dette, ça finit plus. Il n'y a pas moyen d'en sortir. S'il arrive un problème d'entrée d'argent, on est pris. Alors, faut jamais mettre d'épicerie sur les cartes de crédit non plus. Parce que l'épicerie, c'est chaque semaine. Alors, les dépenses courantes, il faut qu'ils se payent par des choses courantes. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, mais faites attention aussi à toutes les offres qu'on nous fait de payer plus tard. Achetez ça maintenant, vous allez payer dans 15 mois, dans 20 mois, sans intérêt, puis il n'y a pas de problème. Mais regardez bien les personnes qui accumulent les payés plus tard. À un moment donné, le plus tard arrive. Et là, le plus tard, il faut payer. ou remettre la marchandise. Et parfois, ça va beaucoup plus mal. Faites-vous une petite méthode de contrôle. Moi, il y a une personne qui m'a aidé énormément dans ma vie il y a plusieurs années, parce que j'avais pas le sens d'organisation de mes finances. Puis la personne m'a montré simplement ceci. Ça veut pas dire que c'est la meilleure méthode, il y en a d'autres. Mais moi, je paye tout par chèque, ou sauf par carte de crédit, mais ce qui apparaît dans... Et puis, tous mes chèques, j'ai une feuille que je marque à chaque mois, tous les chèques qui sortent, le montant, puis le pourquoi. Mettons, électricité, temps, chauffage, temps, ou... Bon. Et quand je vais à la banque mettre mon livre de banque à jour, là, je reviens et je regarde ce qui est passé. Et chaque chose qui est passée, je raye sur ma petite liste, Hydro-Québec, payé, téléphone, payé. Alors, je sais toujours, je peux vous dire à 5 minutes proches combien il me reste dans mon compte de banque, si je peux couvrir le prochain chèque que je vais faire. Voyez-vous? J'ai un contrôle parfait. C'est simple. C'est simplement une petite carte, une par mois, avec tous mes chèques que je fais durant le mois. Et puis, je raye ce qui est passé. Je sais ce qui reste dans le compte. Des petites choses faciles qui peuvent nous aider. Est-ce que vous êtes un bon gestionnaire des urgences possibles? Vous savez, il y a eu Katrina aux États-Unis. 1 million de réfugiés dans l'espace de quelques heures. Dernièrement, il y a eu des sursauts de la météo épouvantables. Il y a eu des réfugiés qui se sont multipliés à différents endroits sur la Terre. Au Québec, en 1998, on a eu une crise majeure du verglas. Il y a eu des gens qui ont été sans courant pendant plusieurs semaines, jusqu'à 2 mois, même davantage, je pense. Vous imaginez un peu la situation. Monsieur Meredith, en 2005, nous a déjà donné des avertissements en disant « Préparez-vous. Mettez-vous de côté dans votre maison, dans votre appartement, de la nourriture, pour au moins pour une semaine, de l'eau pour au moins une semaine. » Est-ce que vous avez lu les directives que M. Meredith nous a données à ce moment-là? Est-ce que vous les avez mis en pratique? Des fois, on se trompe en disant « Oui, j'ai vu ce qu'il a dit. » On a l'impression qu'on est correct, parce qu'on le sait. Mais si on ne l'a pas fait, c'est comme si on ne le savait pas, parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Est-ce que... Vous avez fait un petit sac qu'on appelle un « grab and go » en anglais, comme M. Meredith le mentionnait, un petit sac par maison avec les choses essentielles de base. Ça, c'est si on a à évacuer rapidement pour qu'il y ait dedans les choses dont on a absolument besoin pour les prochains jours si on devait aller dans un lieu public avec plein d'autres personnes pour être capable d'avoir nos médicaments, pour être capable d'avoir les choses de base dont on a besoin. Est-ce qu'on a un petit kit d'urgence dans la voiture? Au cas où il y aurait une panne majeure sur l'autoroute encore ou qu'il se produit un carambolage en plein hiver ou quoi que ce soit et vous êtes pris là pendant longtemps, est-ce que vous avez de la nourriture sèche dans le véhicule? Est-ce que vous avez une chandelle pour être capable de chauffer l'intérieur du véhicule à l'intérieur parce que ça peut fournir suffisamment de chaleur? M. Meredith a donné tout ce qu'il faut pour ça. Est-ce qu'on a été de bons gestionnaires en prenant ça en compte? Est-ce qu'on est des bons gestionnaires de la création de Dieu? Est-ce que je protège l'environnement? Il y a une chose qui m'a frappé en préparant le message d'aujourd'hui. Bien sûr, ça comprend de ne pas gaspiller les ressources, de ne pas détruire les choses autour de nous, de faire attention à ces choses-là, parce que Dieu dit bien dans Apocalypse 11, verset 8, quand le Christ va revenir, il va détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, pour lui, la belle création physique qu'il a faite, elle est importante. Alors, si moi, j'y fais attention, ça a l'air tellement peu important, hein? Mais pour Dieu, voyez-vous pourquoi c'est important? Pourquoi ça, si ce qui semble si peu important à mes yeux, l'est tellement aux yeux de Dieu? Parce que si je fais attention à sa création physique, puis que je ne gaspille pas inutilement, puis que je ne détruis pas sa belle création, c'est parce que j'ai du respect pour ce qu'il a fait et j'ai du respect pour lui. Et je suis en train de me préparer à gérer toute la création. Voyez-vous comment ça se tient? À partir d'une chose qui semble anodine, qui semble tout petite. Dieu, rappelez-vous, a confié à l'homme la responsabilité de la terre. Aujourd'hui, à bien des endroits, comme nous ici, on peut faire du recyclage. La ville nous fournit des bacs et on peut mettre les déchets non utilisables dans un bac. On peut mettre les déchets recyclables, le carton, le plastique, dans d'autres, dans l'autre contenant et on les réutilise. Mais ça, c'est merveilleux. Faisons-le. Mais savez une chose? Nous, on le fait, OK, pour protéger l'environnement, c'est vrai. Mais on le fait pour un motif supérieur. N'oubliez pas, je reviens à ça. On le fait pour un motif supérieur, pour protéger la création de notre grand Dieu et pour nous préparer à l'administration de ces choses-là dans le monde à venir. Personne ne le voit, ça, quand vous faites votre petit recyclage là, chez vous, là, pour sauver des choses sur la planète. C'est, on ne sauvera pas la planète en faisant ça, on le sait. Mais on se prépare à bien administrer la création de Dieu. Et ça, Dieu en tient compte. Et on le fait pour un motif supérieur. Notre vie de tous les jours, à ce moment-là, dans ses moindres aspects, avez-vous remarqué, prend une dimension nouvelle, prend une dimension chrétienne. Même dans les plus petites choses, dans les choses qui semblent les plus anodines. Proverbe 4. Proverbe 4, s'il vous plaît. On pourrait dresser une liste extrêmement longue de toutes les petites actions qu'on peut faire, qui ne semblent pas nécessairement importantes, mais qui plaisent à Dieu quand on les fait pour les bons motifs, pour lui plaire justement, puis se préparer au monde qui vient. Proverbe 4, verset 26. Considère le chemin par où tu passes. Autrement dit, prends le temps de penser à ce que tu fais. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Toutes. Il ne dit pas juste les voies les plus apparentes, les voies qui semblent les plus importantes. Il dit non, que toutes tes voies. Fais attention à ma création. Fais attention aux animaux. Fais attention à ton alimentation. Prends l'exercice. Occupez-vous les uns les autres, entre conjoints, parents et enfants, et ainsi de suite. Dans tous les domaines, la maman qui prépare des repas tellement souvent à la maison, c'est une façon d'honorer Dieu parce qu'elle sert les siens. Voyez-vous? C'est tout ça, tout ça, tout ça. Dans tout ce qu'on fait, si on le fait pour Dieu, on plaît à Dieu et on règle nos voies selon ses voies. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Autrement dit, quoi que ce soit que vous fassiez, là, ce qu'il dit ici, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça résume ce que je vous dis aujourd'hui. Même dans les plus petites choses que les gens ne verront pas, qui semblent peut-être sans aucune espèce de sorte d'importance, le fait que vous ayez soin de votre personne, que vous faites une bonne hygiène, votre façon de vous vêtir selon les occasions où vous êtes, votre façon de recevoir les gens. Je pourrais donner une liste à plus finir. Votre façon de vous comporter sur la route. Est-ce que je respecte les lois de la circulation? Est-ce que je fais au mieux pour les respecter? Est-ce que je tolère ceux qui sont pas tolérants et que je pense à autre chose pour me contrôler, moi, s'il y a des choses qui se passent de ce côté-là? Alors, c'est dans tous les aspects de ma vie. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Donc, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Puis c'est fascinant comment ça change les choses quand on se met à réaliser ça et quand on se met à l'appliquer. À dire, même cette petite chose-là, là, si je la fais comme il faut pour Dieu, ça lui plaît, puis je suis en train de me préparer pour des choses grandes. Colossiens 3, regardez le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Non pas pour ceux qu'on sert même si ça nous fait plaisir de servir les autres. Mais on sert le Christ à travers ceux qu'on sert, comme si c'était le Christ qui était là. C'est ça. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Et c'est le fun. Comme je disais, on peut demander à Dieu... Parfois, le matin, « Père, donne-moi aujourd'hui là, de te plaire dans tout ce que je vais faire. Puis aide-moi à le réaliser et à te l'offrir pour ta gloire, à être un bon gestionnaire, à être un gestionnaire fidèle de tout ce que tu me donnes pour que je sois capable de te servir et de servir le monde éternellement dans le merveilleux monde à venir. »